Si parfois vous avez des creux dans la vie, vous savez vers qui aller vous frotter un peu pour remonter. Hein? C'est génial, le Seigneur nous donne des capacités, des dons tellement différents. Mais profitons les uns des autres. Profitons vraiment les uns des autres. Ce matin, on va continuer de vivre les choses un petit peu, en voyant où c'est que ça va nous conduire. Ce matin, on va parler héritage ensemble. On va parler héritage parce que je crois on a un héritage. On a réalisé qu'on a un héritage. Alors, je ne veux pas parler d'héritage matériel, mais vraiment je veux parler d'un héritage spirituel dont je peux bénéficier, mais aussi un héritage spirituel que je suis appelé à transmettre. Je suis appelé à le transmettre autour de moi. Et cet héritage, on l'a déjà vécu, une partie de ça au travers de la Sainte-Seine. Mais pour commencer, j'aimerais juste qu'on réalise que quand on parle d'héritage, on parle aussi de génération. Un héritage, ça se transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, on réalise quand même bien souvent qu'entre générations, il y a un sacré décalage. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas d'ordinateur. Puis l'autre fois, à l'école du dimanche, un des jeunes m'a dit « Mais comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet ?» Je ne sais plus lequel c'est qui était. Ben ouais, on avait le dictionnaire, quoi, ça allait aussi. Je ne sais pas si vous connaissez aussi cette histoire d'un grand-papa de 80 ans qui parle à son petit-fils de 12 ans environ, puis qui lui dit « Mais tu sais, moi, à ton âge, je travaillais déjà. » Puis le petit-fils, il le regarde, puis lui dit « Oui, mais tu sais, grand-papa, moi, à ton âge, je travaillerai encore. » Et ouais. C'est des réalités qui sont là. Voilà, le monde change, ça évolue. On vit dans un monde qui évolue et qui évolue de plus en plus rapidement. Ça va toujours plus vite. En vrai, c'est en bien et c'est en mal. Je ne vais pas entrer dans le détail dans ce sujet ce matin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui était de hier, c'est du passé. C'est oublié, c'est révolu, c'est ringard. On le met de côté. Il faut qu'on évolue, il faut qu'on vive avec notre temps, peut-être même déjà avec le temps, avec ce qui va venir. Il faut déjà presque qu'on s'y prépare. C'est une réalité aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et cette tendance, elle se vit aussi dans l'Église. On peut passer d'une chose à l'autre sans avoir le temps vraiment de s'arrêter, de réfléchir, de juste se rappeler les choses. Se rappeler, comme le disait Leïla tout à l'heure, si je vis aujourd'hui dans ce pays, dans un pays en paix, c'est parce que d'autres avant moi ont eu cette vision, d'autres avant moi ont donné d'eux-mêmes, ont donné parfois même leur vie pour qu'aujourd'hui je vive dans ce pays en paix. Des fois, juste se rappeler que si aujourd'hui on est ensemble, à nous réjouir autour du Seigneur, c'est parce que d'autres nous ont transmis cette parole. Dans nos familles, ça peut être plusieurs générations qui, génération après génération, ont transmis cette parole, ont transmis ces vérités, et c'est arrivé jusqu'à moi. Peut-être que ce n'est pas le cas du tout, mais quelqu'un t'a parlé et t'a transmis cet héritage. Aujourd'hui, tu as un héritage. La parole de Dieu, depuis Jésus, elle a traversé 2 millénaires, mais elle est là aujourd'hui, elle agit aujourd'hui. Et si elle le fait, c'est parce qu'elle a été transmise de génération en génération. Si on parle de notre église de réveil ici, d'autres avant nous ont eu cette vision de créer une église de réveil à la Chaux-de-Fonds. C'est des gens qui ont lutté, qui ont tout fait pour la maintenir en vie, pour la faire grandir, qui parfois ont dû donner de leur propre personne parce qu'il y avait des situations qui faisaient qu'il fallait vraiment ne pas abandonner pour garder cette église en vie. Et aujourd'hui, on est là, ensemble. Ce n'est pas simplement parce qu'on a décidé comme ça, du jour au lendemain, d'être ensemble. C'est parce qu'il y a tout un héritage derrière nous. C'est notre héritage, cette Église qui peut avoir vécu des temps de réveil, des temps de lutte, des miracles, mais qui aujourd'hui est appelé à vivre encore ces choses. On est appelé à prendre soin de cet héritage, de faire fructifier, de faire grandir pour le transmettre plus loin, aux prochaines générations. Si j'ai à cœur de vous partager ça ce matin, c'est parce que dans le cadre de Bibletemps, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Bibletemps, c'est un programme de lecture de toute la Bible qu'on lit en 2 ans avec les ados. On est tombé il y a quelques semaines sur le psaume 78. Et j'aimerais lire avec vous le début de ce psaume, les versets 1 à 7. C'est un psaume d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu, et respecteraient ses commandements. Dans le début de ce psaume, Asaph nous rappelle l'importance du témoignage, de se rappeler de ce que Dieu a fait. On se le rappelle par sa parole, par la Bible, en lisant sa parole. Mais on se le rappelle aussi au travers des témoignages qui viennent confirmer sa parole. Les témoignages des personnes qui sont autour de nous, notre propre témoignage qui est appelé à confirmer la parole de Dieu. En lisant ce psaume, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au peuple d'Israël. À un moment donné, quand le peuple d'Israël est appelé à sortir d'Égypte, Dieu institue le repas de la Pâque, la Pessa. Et ce repas de la Pâque, on l'a vécu avec les ados dans le cadre justement du Bibletemps. On l'a vécu avec un couple qui est venu nous le faire vivre. Et j'étais impressionné par le nombre de choses qui sont là qui se vivent à ce repas pour nous rappeler, pour qu'on se rappelle, pour que le peuple d'Israël se rappelle ce que Dieu a fait. C'est vraiment impressionnant. Et quand Dieu institue ce commandement, il dit au peuple, vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. C'est vraiment quelque chose qui est là. Rappelez-vous, tout le temps, revenez à ça, n'oubliez pas. Et pourtant, quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, on constate que le peuple d'Israël a oublié. Par moments, le peuple a oublié. Par moments, il a même mis totalement de côté ses prescriptions de Dieu pour vivre sa propre vie, pour vivre ses propres choix. Et on voit les conséquences qu'il y en a eu. Ces conséquences dramatiques pour le peuple. Et ça faisait revenir le peuple à Dieu. Et il suivait de nouveau ses prescriptions. Et il y a des autres moments où ces prescriptions étaient suivies, mais le cœur n'y était pas. Simplement, c'était une tradition. On vivait les choses traditionnellement. Et puis, ça s'arrêtait là. Et Ésaïe en parle. Au début d'Ésaïe, il en parle dans son livre. C'est des paroles très dures pour le peuple d'Israël. Il dit, « Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. » Et au verset 11, « Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » C'est des paroles dures, des paroles qui secouent. Et parfois, on a besoin de paroles qui nous secouent pour nous dire, c'est vrai, finalement, j'en suis où dans ma vie? Et Asaf, dans ce psaume, si vous lisez la suite, je ne vais pas lire la suite parce qu'il y a 72 versets quand même, il parle de tout ça. Il rappelle tout ce que l'Éternel a fait, mais aussi comment le peuple d'Israël a plus ou moins suivi l'Éternel et les conséquences qu'il en a eues. Tout ça, ça se vivait sous l'ancienne alliance. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, avec la venue de Jésus, avec le sacrifice de Jésus sur la croix, ce qu'on vient de proclamer tout à l'heure au travers de la Sainte Cène, où il nous a libérés de l'esclavage, où il nous a donné cet accès direct au Père par Jésus, où le Saint-Esprit est venu pour chacun d'entre nous. Et si on vit régulièrement ce repas de la Sainte Cène, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui nous est demandé. Dans 1 Corinthiens, il est dit, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On proclame quelque chose de concret, de vrai, de réel, qui doit changer quelque chose dans notre vie. Au travers de ce repas, on se souvient des souffrances que Christ a supportées, de sa vie qu'il a donnée, de son sang qui a coulé, au travers duquel je suis justifié. Et non seulement on se souvient, mais on le déclare. On le déclare aussi face au monde invisible. On le déclare aussi pour nous-mêmes, nous rappeler vraiment que, oui, Christ a vraiment donné sa vie. C'est pas simplement un repas qu'on partage pour être unis les uns aux autres. Jésus-Christ est vainqueur. C'est ce qu'on proclame. Et on l'a tellement proclamé ce matin, moi je trouve génial. Parce que, oui, c'est ça. Être enfant de Dieu, c'est proclamer la gloire de notre Papa, la gloire de notre Père Céleste. Et si on peut vivre toutes ces choses, si on peut voir, entendre des témoignages de guérison, de libération, de renouvellement, de restauration, c'est parce que Christ a vaincu Satan à la croix. C'est cette réalité-là qu'on proclame. Et à son retour, tout genou fléchira devant lui. Hein, tout genou. Personne ne tiendra devant lui, devant notre Dieu. Personne. Tout genou fléchira, qu'on le veuille ou non à un moment donné. Et pourtant, quand on regarde autour de nous, combien ont entendu, ont vu, ont vécu même les interventions de Dieu, les interventions merveilleuses, et à un moment donné, ont tout oublié. Oui, ça arrive. Ça arrive, c'est la réalité. L'Église d'aujourd'hui, elle en est où? Qu'est-ce qui est prioritaire dans l'Église? Je ne parle pas que de notre Église, je parle de l'Église en général. Mais pour nous, on peut être fiers parce qu'on a un groupe de louanges super, hein, qui nous amène dans la joie, qui nous fait entrer dans des moments qu'on n'avait vraiment pas prévus. Hein. Alléluia. On peut être fier de ça, oui. On peut être fier parce qu'on a des finances saines. On peut être fier de notre nouvelle machine à café. Elle est bien d'ailleurs. C'est vrai. On peut être fier de toutes ces choses. Mais si la priorité absolue, ce n'est pas l'œuvre de Christ à la croix, et tout ce qui en découle, alors on est à côté. On est comme le peuple d'Israël. On est pris par nos propres règles, nos propres joies, nos propres plaisirs. Puis on est bien ensemble. Mais ça s'arrête là. La priorité absolue, Christ. Christ dans notre vie, dans notre Église. Et personnellement, dans notre vie. Dans quel état d'esprit est-ce que je vis ma relation avec Dieu? Ça, c'est la question que moi, je me pose. Parfois, je ne sais pas si vous êtes des fois surpris à à vivre mais votre temps personnel avec Dieu, ou même le temps de louange, ou même la Sainte Cène, tout à coup vous dites, mais je suis complètement ailleurs dans ma tête. Je suis en train de réfléchir à toute autre chose. Moi, ça m'arrive. Je ne sais pas si je suis seul, mais ça m'arrive. Alors, qu'on vit ces moments que le Seigneur nous a demandé, il a commandé de les vivre régulièrement ensemble. Parfois, je me perds complètement. Mais je crois qu'on doit toujours à nouveau, et moi je dois toujours à nouveau, me rappeler. Mais où est-ce que je serais s'il n'y avait pas eu tout ça? Si Christ n'avait pas donné sa vie pour moi? Ou si je n'avais pas su que Christ a donné sa vie pour moi? Où est-ce que je serais aujourd'hui? Mais au travers de mes parents, au travers des générations d'avant, au travers des personnes dans l'Église, oui, j'ai appris. J'ai appris et j'ai compris et j'ai vu et j'ai réalisé combien Dieu est grand dans ma vie. Si j'ai pris ce psaume ce matin, c'est aussi parce que je réalise de plus en plus qu'on a un Dieu tellement merveilleux. On le sait, hein, on le sait, on le proclame, on le voit. Mais je crois plus on avance dans la vie, plus on voit la fidélité de Dieu. Plus on réalise que de génération en génération, il a été fidèle. Quand on est ado, parfois nos parents, ils pompent, c'est un peu, voilà, ils ont des idées un peu ringardes, franchement, pourquoi, ça sert à quoi, etc. Pourquoi il faut faire les choses comme ça? Pourquoi? D'ailleurs, Kevin n'est pas là. Mon petit-fils, hein, il se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Ben oui. On doit savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois faire ces choses? Mais quand on réalise pourquoi on les fait, alors ça change tout. Alors on peut vivre des choses merveilleuses, mais encore faut-il qu'elles soient dites. Faut-il qu'elles soient partagées. Dans les psaumes, il est souvent dit, je raconterai tes merveilles. Racontons-nous les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Ce matin, j'ai demandé à quelques personnes dans l'église de réfléchir sur la base de ce texte, à savoir, qu'est-ce que tu aimerais que les générations qui te suivent retiennent de ce que toi tu as vécu? Qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Qu'est-ce que tu as reçu des générations précédentes qui t'a marqué, qui t'a aidé, qui t'a conduit, ou qui ne t'a peut-être pas aidé justement? Entrer là-dedans, entrer dans cette vie avec Christ. Or, les personnes à qui j'ai demandé, si vous êtes partant, vous venez simplement, parce que voilà, je ne vais pas forcément vous appeler. Je vais peut-être juste donner la priorité à... Non, bah, t'as envie de commencer? Ouais. Simplement partager ce que tu as. Puis après, les autres, vous suivez. Normalement, c'est surtout pour l'encourager, parce que normalement, c'est la plus jeune qui m'a dit, ok, j'ai quelque chose, je partage quelque chose.
Ok, alors je m'attendais pas, c'était là-dessus, du coup, voilà. Mais vraiment, lisez la Bible, c'est super important, parce que moi je me suis rendu compte quand j'ai fait Bibleton, avant je le faisais pas, et puis j'ai commencé, et puis j'étais vraiment à fond dedans et tout, maintenant je vois que je suis un peu descendu, mais quand je la lis, c'est vraiment, ça m'apprend beaucoup de choses, et puis je vous encourage à le faire, puis c'est un bon moment... apprendre avec Dieu, et puis se dire aussi qu'on a la chance d'avoir une Bible, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir ce privilège. Donc voilà, pensez-y.
C'est la base, hein. Norma, tu as posé la base du truc. La parole de Dieu, c'est la base. Et puis la suite...
Bonjour à tous, à notre Dieu la gloire. Quand il a voulu, quand il m'a tissé dans le ventre de ma mère, il lui a mis à cœur de prier pour moi. Et en regardant ma vie, je vois que tout au long de ma vie, le Seigneur a mis des jalons. D'abord à l'école du dimanche, à l'église protestante. Puis pendant les cultes, quand j'allais avec mes parents. Et quand j'ai fait mon instruction religieuse. Et là, le pasteur avait invité un groupe. En l'occurrence, c'était Claude-Éric Robert et sa sœur Mélucie, des Bressel, qui, eux, ont parlé aux jeunes catéchumènes de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ ressuscité, vivant. Et c'est seulement à ce moment-là que une graine a été plantée. Mes parents ne m'en parlaient pas vraiment, mais ils étaient ouverts, on allait quand même à l'église. Mon père voulait devenir pasteur et son leitmotiv, c'était 1 Corinthiens 13, la fin, « Seule l'espérance, la foi et l'amour demeurent. » Et ma mère a continué de prier pour moi, certainement que mon père le faisait aussi, il ne m'en a jamais parlé, je vais peut-être lui poser la question. Il s'est passé deux, trois choses avec une demi-sœur qui m'ont bloqué et j'ai perdu confiance dans l'amour de mes parents. Alors, je suis parti de côté, j'ai dévié, je suis retrouvé le bon, non, très mauvais fils prodigue. Mais là encore, ma mère continuait de prier pour moi. D'autres personnes priaient pour moi. Et au moment crucial, quand le Seigneur m'a sauvé, c'était encore la prière qui... j'ai vu vraiment les réponses du Seigneur à la prière. Ce sera une occasion de témoigner une autre fois. Je ne veux pas m'attarder, c'est un long témoignage. Mais après, je suis rentré dans l'église et... C'est encore la prière des frères. Je te remercie, Jean. C'est plein d'émotions. Je remercie ma belle-mère aussi, Huguette. Je sais que beaucoup d'autres ont aussi prié pour moi. Mais j'ai toujours senti que le Seigneur me soutenait, que j'étais soutenu dans la prière. Alors, oui, continuons de prier. Prions pour nos jeunes, prions pour nos aînés. Ils ont eux aussi besoin. Ils n'ont plus forcément des aînés qui prient encore pour eux. Mais la chose la plus importante, c'est de parler aux enfants du Seigneur. Parce que sans la parole, ils ne peuvent pas comprendre. Sans le dialogue, ils ne peuvent pas comprendre. Et certainement que si j'avais eu un dialogue un peu plus intime avec mes parents, plus proche, il n'y aurait pas eu ces incompréhensions et je ne me serais pas cassé la gueule. Mais c'est vrai que le Seigneur m'a toujours soutenu, il m'a restauré, il m'a guéri de beaucoup de choses. Alors voilà, ça ce sera pour une prochaine fois. Je vais laisser la suite à la prochaine personne qui voudra parler, partager.
Bonjour. J'ai pris mon cahier parce que je stresse toujours quand je suis ici devant. Alors, du coup, moi, c'est vraiment ce que mes parents principalement m'ont apporté et ce qu'ils m'ont transmis. Je dirais, j'ai eu de la chance de naître dans une famille chrétienne et par leur exemple de lire la Bible, de prier, de jeûner, de louer le Seigneur, d'avoir des groupes de maison, eh bien, mon enfance, elle a été vraiment bénie et puis j'étais là-dedans, c'était vraiment chouette. J'ai aussi pu voir tout le service qu'ils apportaient autour d'eux, que ce soit par leur générosité, par les invitations, par le temps de partage, par leur temps qu'ils accordaient aux autres. C'était vraiment très beau à vivre. Après, effectivement, comme André en a parlé, il y a eu l'adolescence, où j'ai tout remis en question ce qu'on m'avait appris, et je m'en suis bien éloignée, jusqu'à ce que je comprenne pourquoi, justement, mais pourquoi... tout ce que mes parents ont fait, tout l'exemple, et puis que je puisse enfin vivre ma foi à moi et non la foi de mes parents. Et puis maintenant, justement, j'arrive à me dire, tout ce que mes parents m'ont appris, c'est pas forcément une parole précise de la Bible, mais c'est tout ce qu'ils ont pu me montrer par leur acte, par la mise en pratique. Et c'est vraiment beau, quoi. Je veux dire, que ce soit la mise en pratique du jeûne, que ce soit justement ce service, et toujours dans l'humilité. Et effectivement, pendant l'adolescence aussi, je me vantais, j'étais fière de me montrer, enfin voilà. Et puis après, on revient à cette humilité et se dire, la seule personne qui pourrait être fière, ben voilà, c'est Christ et c'est pas moi. Et je dirais même, ils sont aussi allés à l'encontre du courant, c'est-à-dire à contre-courant, que ce soit les Noëls en famille ou au début on faisait des immenses Noëls avec des rencontres de famille où on s'offrait des cadeaux, on parlait même plus de Jésus, et puis eux ils étaient là mais ça joue pas, ils étaient mal avec ça, puis ils priaient, puis ensuite ils se sont dit mais c'est pas grave si nos frères et sœurs, oncle, tante, ne croyez pas en Dieu. Nous, quand on invite maintenant, on veut plus de cadeaux, et puis on chantera des louanges. Et puis, ils ont pu aller en contre-courant, et ça, c'est aussi des exemples concrets de mise en pratique. Et puis, voilà, il y aurait tellement à dire, mais je pense que c'est ça, vraiment la mise en pratique.
Merci. Bonjour. J'ai pensé un truc, c'était pas prévu, mais je savais pas ce qu'il allait faire, mon mari. mais il y a un truc qui m'est revenu, et puis voilà, je crois que c'est bien. Quand j'étais une petite fille, il y avait une grand-maman qui habitait plusieurs maisons plus loin que chez nous. Et j'allais souvent chez elle. Et c'était une grand-maman qui était rayonnante, qui était pleine de joie. Et puis elle avait un piano avec les pédales, machin. Voilà, c'est ça, harmonium. Et c'était une grand-maman qui louait Dieu tout le temps. Et elle chantait des vieux cantiques et louait Dieu. Et moi, j'allais très, très souvent chez elle. Quand mes parents me trouvaient pas, ils savaient où j'étais. Et quelque part, après, j'ai promené mes sœurs, des copines avec. Et c'est une grand-maman qui nous a super marqués. C'est il y a pas très longtemps que j'ai réalisé que je pense que ça fait, elle a mis vraiment quelque chose au fond de moi. Elle louait Dieu de tout son cœur, et elle nous apprenait des chants, et nous on chantait des après-midi entiers avec elle, avec son harmonium, et puis voilà, elle rayonnait de Dieu, et puis voilà, je crois que c'était vraiment quelqu'un qui m'a marqué au tout début, quand j'étais toute petite. Voilà.
Bonjour. Alors, moi, je vais aussi vous partager un court témoignage. Et en fait, le but de ce témoignage, c'est juste de montrer qu'on peut tous semer de bonnes semences dans le cœur et la vie des autres. Et moi, je vais vous donner un court témoignage. Donc, je vais vous dire comment mon papa l'a fait dans ma vie, notamment. Et mon papa, il est agriculteur. Donc, il bossait dehors et il rentrait juste à l'intérieur pour aller aux toilettes ou pour manger ou boire quelque chose, puis il retournait à l'extérieur. Et à quelques moments, il a fait ce que je vais vous dire maintenant. Je vais vous donner un exemple. Il est venu, il est allé boire quelque chose à la cuisine. Moi, je suis passée. Et puis, il me dit, ah, Claudia, tu sais, je vais te raconter une histoire. Un homme, il avait deux fils. Et en fait, au premier, il a dit, mon fils, va travailler au champ. Et ce fils, il a dit, oui, papa, j'y vais. Et en fait, au bout de quelques minutes, il allait faire autre chose, quoi. Et alors, ce papa, il a demandé au deuxième fils, mon fils, va travailler au champ. Et ce fils, il a dit, non, papa, franchement, j'ai pas envie, j'ai plein de choses à faire. Mais au bout de quelques minutes, il s'est quand même dit, ça va pas le faire. Et donc, il est allé au champ. Et après, mon papa, il me dit, alors, dis-moi, c'est lequel des deux fils qui a fait juste? Et, ben voilà, moi, j'étais enfant, j'avais plein d'idées. Je me suis mis à réfléchir, j'avais mes arguments, ma justice propre en fait, parce qu'en tant qu'enfant, ça c'est vrai, ça c'est faux, les parents ils disent autre chose, mais c'est forcément nous qui avons raison, on est d'accord, hein? Vous étiez aussi comme ça, moi j'étais comme ça en tout cas. Et mon papa m'a dit non, tu sais, c'est le deuxième fils qui a raison, parce que ce qui compte c'est l'obéissance, c'est l'acte, c'est de le faire. Et voilà, il est retourné travailler au champ, ou traire les vaches, ou quelque chose comme ça. Et moi, cette histoire, ben, la preuve, c'est que ça fait 20 ans, je pense, qu'il me l'a raconté. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Je ne sais même pas si lui s'en souvient encore. Mais ce que je sais, c'est qu'à plusieurs reprises, pof, cette histoire, elle est revenue en tête. Et en fait, cette parole semée, moi j'étais pas d'accord au début avec mon papa. Et donc j'étais pas d'accord avec la Bible parce que ce texte vient de la Bible. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment médité cette histoire et la vérité que mon papa avait semée ce jour-là, qui est une vérité de la Bible, elle est venue s'ancrer. Et aujourd'hui, je sais que quand on me demande quelque chose, ce qui compte, c'est l'obéissance. Quand Dieu me demande quelque chose, ce qui compte, c'est l'obéissance. Et mon papa, il a juste semé, il est retourné au boulot, et Dieu a fait le reste. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que, comme André, il a pris le psaume 78, ce que nous connaissons, ce que mon papa a connu, ce que nous connaissons pour l'avoir entendu, mon papa, il lisait la Bible. Ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le laissons pas ignorer à leurs descendants. Et mon papa, c'est ce qu'il a fait. Il a reçu de Dieu, il me l'a transmis. Je l'ai reçu de mon papa et aujourd'hui, je vous le transmets, et en particulier à ceux qui sont plus jeunes que moi. Et c'est juste ça pour vous encourager. On a tous quelque chose. Regardez autour de vous, on est une église. On a tous des plus jeunes. Donc transmettons ce que nous avons reçu, même si c'est peu, même si ça prend 3 minutes.
C'est pas de mon âge, ça. Bonjour à tous. Je vous aime tous, de tout mon cœur. Comme vous savez, mes origines, elles étaient catholiques. Parce que je suis née en Italie. Mais je suis depuis 1947 en Suisse. Et j'avais 18 ans. Et j'aime autant vous dire que dans ma vie, j'ai jamais pleuré une nuit entière que quand je suis rentrée en Suisse. Tellement que ça m'avait impressionné parce que j'avais un passeport et que je ne pouvais plus rentrer en Italie comme je voulais. Et j'ai pleuré toute la nuit. Après, naturellement, quand j'entendais un avion, ça tremblait. Quand j'entendais un bruit suspect, ça tremblait. J'étais encore un peu sous les chocs des bombardements de la guerre. Mais dans les années 60, je me suis convertie. Et là, ça a changé bien ma vie. Hein. Mon opinion de la vie a tout changé. Et puis en 72, je me suis fait baptiser. 2 maisons plus loin ici, dans une baignoire, avec ma fille. Et puis depuis là, ça a suivi la vie, quoi. Je me suis mariée en 55. J'ai eu 2 enfants, Jean-Pierre, mais d'abord j'ai eu Annelise, ma fille, qui est maintenant définitivement habitée en Italie. Et puis voilà, en tout cas, je peux vous dire que Dieu était présent dans ma vie, je crois, depuis la naissance. Parce que je ne peux pas vous dire toute ma vie parce qu'il faudrait une semaine pour la narrer. Alors, parce que depuis 12 ans et demi, je suis par le monde. À 12 ans et demi, on m'a donné une petite valise, tu pars, ciao, bonne nuit. Et je suis encore par le monde. Mais c'est différent maintenant. Merci pour toutes vos interventions pendant que j'étais malade. Merci pour toutes vos prières. Qui m'a beaucoup touchée. Et je peux vous dire que Dieu, depuis que je le connais, il est toujours à côté de moi. Il guide mes pas, même que de temps en temps je suis tombée, mais je pense qu'il le permet aussi, pour qu'on s'approche encore davantage de lui, qu'on voie qu'il est là, qu'il nous a secoués. Merci Seigneur, parce que vraiment, depuis que je te connais, tu as changé ma vie, tu as changé toute l'opinion de ma vie, partout où je suis passée, partout cela, m'a fait aussi oublier certaines choses. Merci Seigneur, parce que tu es toujours à côté de moi. et je peux compter toujours sur lui. À qui irions-nous sinon qu'à lui? D'où nous vient le secours? Et c'est vrai que c'est en lui qui vient le secours. Nous ne pouvons pas compter sur les hommes, parce que les hommes, ils sont changeants. Aujourd'hui, c'est comme ça, le lendemain, c'est autrement. Mais Dieu est toujours le même. Il est plein de compassion pour nous et plein d'amour. Merci, Seigneur.
Ça encourage, ça encourage. Mais toute ta vie nous encourage, je crois, Anna. Oui, oui. La fidélité de Dieu, il a été parlé de la parole de Dieu, la Bible. Dans la Bible, on va trouver déjà la base, vraiment tout, la base de notre foi. La prière. La prière, c'est tellement important. Et puisque, en tant que parents, on transmet à nos enfants. Et puis tout ce qui a été partagé, c'est tellement important. Vous savez, les aînés, vous avez beaucoup à nous partager, beaucoup à nous transmettre, beaucoup à nous donner. Moi, j'ai été marqué dans cette église par des témoignages de personnes ici. Et des jeunes aussi ont été marqués par ces témoignages-là, de guérison miraculeuse. Voilà, je suis sûr que plein ne savent pas ce que Dieu a fait. Mais pourtant, il l'a fait dans cette église. Donc je ne peux que vous encourager, mais partager, repartager, parce que les générations viennent, se suivent, et puis les nouvelles générations ne savent pas forcément. Partager. Et les jeunes aussi, le Seigneur a besoin de vous. Il veut parler à l'église aussi au travers de vous. On a besoin les uns des autres. On a besoin de grandir les uns avec les autres. C'est une telle richesse à côté de laquelle on peut passer sans y faire attention. Mais c'est une telle richesse. Je vais redonner la parole à Claudia qui va nous conduire dans un temps final par rapport à ça.
Moi, donc, ayant reçu, comme je viens de vous le partager, j'avais aussi envie de partager quelque chose à ceux qui sont plus jeunes que moi. Et la chose qui me touche peut-être le plus, que j'ai pu recevoir à certains moments et que j'aimerais bien vous partager, c'est la bénédiction d'un père spirituel dans nos vies. Et pour ça, j'ai demandé à Jean-Pierre s'il était d'accord, et il a dit oui. Du coup, pour aujourd'hui, je propose que ce soit pour les personnes qui ont 25 ans et en dessous, je vous encourage, vous particulièrement, à recevoir la parole de bénédiction d'un papa spirituel. Juste pour se repencher dans la Bible, j'aime beaucoup, par exemple, la bénédiction que Dieu a donnée à Aaron de proclamer sur le peuple d'Israël entier. Donc la bénédiction, c'est quelque chose qu'on vit peut-être peu dans cette culture, mais quand j'ai pu le vivre, je vous dis, ah, ça fait du bien, on n'est pas orphelin, et on l'entend dans nos oreilles physiques, et ça vient nous rejoindre dans nos tripes. Donc je vais demander à Jean-Pierre de venir, et pendant que tu viens, je veux juste vous encourager, à vous qui avez 25 ans ou moins, à vraiment recevoir dans vos tripes la parole de bénédiction, et je vous encourage même physiquement, si vous préférez être en cœur à cœur avec Dieu sur votre chaise, ou si à votre place vous avez envie de vous lever juste pour recevoir de Dieu, ou même si physiquement vous avez envie de venir chercher ici la bénédiction de Dieu au travers de Jean-Pierre, alors sentez-vous libre, levez-vous, venez simplement recevoir.
C'est qui a moins de 25 ans? Non, mais en vrai, moins de 25 ans. Ouais, cool. Quand Claudia m'a demandé ça, je me suis dit, waouh, mais je suis qui, moi, pour faire ça? Et puis, en fait, ben, on pourrait demander à n'importe qui de le faire, parce que une fois qu'on connaît le Seigneur, on peut le faire. Ouais, une fois qu'on connaît le Seigneur, on peut le faire parce que c'est écrit dans sa parole. On peut bénir quelqu'un en son nom. Et puis, c'est un honneur ce matin de pouvoir le faire. Ouais, Seigneur, c'est un honneur et puis une responsabilité, Seigneur, de le faire. Mais c'est beau de pouvoir bénir au nom du Père, de bénir au nom de Jésus, de bénir au nom du Saint-Esprit. Et ce matin, je vous bénis les jeunes. Je vous bénis en son nom. Ouais, j'ouvre vraiment les cieux, Seigneur, sur vous, en ton nom. Je te demande ta présence dans leur vie. J'appelle ta présence dans leur vie. Que toi qui es assis sur ta chaise ou debout, tu sois béni par Dieu, maintenant. Béni par Jésus, béni par le Saint-Esprit. Que tu le voyes dans ta vie. Que tu l'entendes par ce que tu peux voir ou entendre, Seigneur, que tout parle de lui. Ouais, reste connecté à la bonne application, celle qui coupe jamais, celle qui a un super haut débit. Merci de pouvoir bénir ces jeunes. Et c'est ce que je veux faire maintenant. Seigneur, toi tu les connais, il te connaît, là où tu es assis, il sait ce que tu vis, il l'a vécu. Il sait ce que tu penses. Il sait ce qui te tire en bas. Il sait ce qui t'enthousiasme. Et il veut y participer. Il veut être avec toi tous les jours, avec tes amis, avec ta famille, avec, ouais, ou même les moments où t'es tout seul. Parce que c'est un Dieu qui t'aime, qui s'intéresse à toi, qui a des plans pour toi. Merci, merci Père de pouvoir bénir ces jeunes en ton nom. Merci Jésus de pouvoir bénir ces jeunes en ton nom. Merci Saint-Esprit de pouvoir bénir ces jeunes en ton nom. Amen.